Europe Soir,
le 18-20.
Wendy Bouchard.
Nous sommes ensemble, chers amis, jusqu'à 20h avec au programme de notre Club des idées ce soir. L'humour, la caricature, la parodie comme moyen de résistance. C'est vrai que dans cette actualité triste, macabre, mortifère, c'est peut-être une bonne recette du quotidien. C'est celle qu'emploie, en tout cas, entre autres, Nicolas Cante, Louane Roumanoff, Bertrand Chameroy sur Europe 1, comme nos trois artistes présents ce soir. Elle chante, elle nous fait sourire et rire beaucoup. Christelle Cholet, bonsoir Christelle.
Bonsoir Wendy.
On va entendre quelques-unes de vos parodies chantées. C'est sur votre compte Facebook notamment. Christophe Alévèque, bonsoir monsieur le Premier ministre des humoristes. Vous qui, avec votre conférence de presse parodiant Jean Castex avait frôlé le 1,5 million de vues, malgré la censure de Facebook, etc. etc. On y reviendra.
Peut-être
grâce.
Voilà. YouTube, pas Facebook. Mais YouTube, c'est les mêmes, de toute façon.
Nicolas Briançon, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Acteur, metteur en scène qui est avec nous à la lecture des grands textes, le classique, c'était au cœur du confinement avec vous. Il y a une opération au Théâtre de la Renaissance dont on va parler notamment. L'humour aussi vous sauve. Alors, nous parlions de parodies chantées, le mieux c'est de l'écouter. Elle résume la vôtre, Christelle Cholet, en 2 minutes l'année 2020. Elle a été vue 7 millions de fois en 3 mois. Écoutez.
Cette année de merde, elle avait très mal commencé. Surtout pour Benjamin Griveaux. Et dans les manifs, ces putains de la boxe emboîtent le pas. Vitrine cassée, y a pas de fessée ou quoi? Pas le temps de souffler, dans le pays on devient tous des cons. Finé! À 20h, y'a du monde au balcon. On skype, on zoom, on bouffe et on sort son chien. Si on veut se marier, pas moyen. Cette année de merde, j'en peux plus. Il manquerait plus qu'un pigeon me chie dessus. Ou que des martiens viennent nous botter le cul. J'en peux plus de cette année de merde.
Cette année-là, parodie de Christelle Cholet. Une parodie prophétique, car cette année de se poursuit. Hein, donc on a envie toujours, avec vous, de se détendre. Alors, faire danser sur une pandémie, c'était pas évident.
C'était pas évident, mais
vous l'avez fait.
En fait, elle a fait 7 millions de vues pour ça, je crois. C'est parce que vraiment, on est tous dans la merde et qu'on ressent tous le besoin d'aller danser sur ça et d'en rire pour évacuer, quoi, parce qu'on n'a rien d'autre à faire.
Alors, elle a été partagée, mais comment les gens ont réagi? Comment les internautes ont réagi?
Les gens l'ont prise comme un hymne, un hymne momentané. Et j'ai reçu énormément...
Tourné sur le parvis de la Tour Eiffel.
Oui, sur le parvis de la Tour Eiffel. Puis c'est marrant parce que ça s'est fait vraiment en 3 minutes. J'ai appelé les potes, vous voulez venir danser avec moi? Oui, on arrive. Et puis c'est comme ça. Puis on a tourné dans Paris avec mon chien. Et puis tout d'un coup, il y a une résonance partout, dans toute la France et même un peu plus loin.
Oui, mais je crois que vous mettez de la musique aujourd'hui dans un supermarché. Tout le monde se met à danser, Christophe Alévèque.
Il n'y a plus de boîte de nuit, alors forcément.
Non, mais vous l'avez vu, vous connaissez les parodies de Christelle?
Oui, bien sûr. Oui. Et puis c'est bien, mais le parodie de Christelle ou la séquence que j'ai mis, il faut bien se dire aussi, c'est qu'en ce moment les gens ont que ça à foutre. Je pense qu'en temps normal on mettrait les séquences comme ça, les gens regarderaient moins, mais là je veux dire, le qu'est-ce qu'on fait, couvre-feu, on rentre, le jour sans fin, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va essayer de se distraire.
On a l'impression aussi de se donner un peu la main, même si on veut pas se toucher les mains évidemment et se voir. On a l'impression de se rallier à quelque chose comme ça et d'être ensemble. Et je crois qu'en ce moment, on a plus que besoin d'être ensemble.
Bah oui,
on n'y arrive pas souvent.
C'est la mission essentielle de l'artiste aussi, partager son art et ses émotions.
Ce qui est très beau dans nos métiers ou dans notre travail d'acteur, c'est que notre boulot, c'est que dans une salle composée de dans une salle en temps normal, de 500, 600, 1000 personnes, tout d'un coup, des gens totalement différents dans cette salle, d'opinions politiques différentes, de sensibilités différentes, de couleurs différentes. Tout d'un coup, ces gens se mettent à respirer au même rythme, à ressentir la même émotion au même moment, ensemble. Voilà. Et je pense qu'on a terriblement besoin en ce moment d'être ensemble, de respirer ensemble, de vivre ensemble.
Oui, mais il y a deux options, si vous voulez, si vous me permettez, Nicolas Briançon. Il y a ceux, par exemple, vos amis artistes qui occupent des théâtres, 70 théâtres aujourd'hui en France, ou salles de spectacle, et qui sont entre eux, mais parce qu'ils ont besoin aussi de faire partager ce message, qui nous parvient d'ailleurs, on a fait suffisamment d'émissions dessus. Et puis, il y a tenter de rire ou de détourner la situation, comme vous pouvez le faire, et de trouver des expressions différentes, Nicolas.
Chacun, d'abord chacun réagit à ce que nous traversons en ce moment comme il le peut et comme il l'entend. Je me garderai de tout jugement sur les uns les autres, sur les actions des uns et des autres. J'ai un besoin de créer quelque chose. C'est ma façon à moi de créer ma petite résistance. Je ne suis porte-parole de personne. Je ne suis pas un porte-parole. Je ne représente que moi dans mon petit coin. Et dans mon petit coin, j'ai besoin avec d'autres, parce que mon métier est un métier d'équipe, est un métier de groupe, de créer des choses. Qui rappelle au public qu'on est là et qui rappelle ce moment de partage fondamental. Il va falloir que les gens reviennent dans les salles, il va falloir que les gens nous retrouvent.
Il va falloir les réapprivoiser.
Et au cinéma
mais
et au théâtre.
Mais je crois qu'ils ont très envie de revenir. Enfin,
et j'espère, oui, qu'ils auront envie, mais on a besoin de ne pas couper ce lien non plus complètement,
sûr.
C'est fondamental.
Mais tenter de rire de la situation, de dédramatiser. Je vous annonçais, venant sur Europe 1 aujourd'hui, et Adeline sur Twitter réagit en disant, mais pardon, pour moi, c'est pas de l'humour, c'est une façon de se moquer en permanence des décisions prises. Elle nous écoute quand même, Adeline, mais que lui répond Christophe à l'évêque? On va entendre un extrait de votre conférence de presse.
Elle a bien regardé la séquence, Aline. Il faut qu'elle revienne. C'était une séquence que j'ai fait comme ça, parce que moi, là, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol d'abord.
Ras-le-bol de quoi? Des conférences de presse sanitaires?
Ras-le-bol des numéros d'autosatisfaction tous les jeudis à 18h. Ras-le-bol d'entendre une infantilisation permanente. Et puis ras-le-bol qu'il n'y ait pas de débat. Voilà, parce que depuis un an, nous ne sommes plus en démocratie. Il y a un décret d'ailleurs, hein, nous sommes en état d'urgence. Et si on nage pas dans le couloir de pensée officiel, on se tait. Si on n'est pas un spécialiste, on se tait. Donc ça veut dire que nous on subit, on parlait des théâtres fermés tout à l'heure, il y a eu une étude sur les lieux de contamination. Nous arrivons en queue de peloton. On se demande toujours pourquoi les théâtres sont fermés. Mais ils le sont. Et on paye toutes les erreurs. Oui, donc, oui, on peut critiquer. Mais dans cette séquence, ce n'est pas ça que je critiquais. C'est le marketing de l'angoisse.
Oui.
C'est-à-dire, c'est les chiffres.
Avec des slides, avec des palettes.
Nous sommes à brevet de chiffres, oui. De comparaisons. Et ce que je dis au début de la séquence, les chiffres, on en fait ce qu'on veut. Donc, j'ai voulu renverser le principe... et puis faire d'autres comparaisons.
On va vous écouter en conférence de presse juste après la pause et vous nous direz comment vous occupez le terrain, vous aussi, Nicolas Briançon. Il y a une opération notamment au Théâtre de la Renaissance et vous également, Christelle Chollet, en humour et en musique. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Wendy Bouchard.
Le club des idées sur l'humour pour dédramatiser la situation du moment. On a envie de comprendre ce qui se passe aussi dans la tête des artistes. Tant de manières de résister, tant de manières aussi d'occuper le terrain. Trois d'entre eux sont avec nous ce soir, avec la volonté quand même de tenter de nous faire du bien. Je dis tenter, mais ils réussissent évidemment. Christelle Chollet est avec nous, Christophe Alévèque et Nicolas Briançon. Nicolas, il y a une opération au Théâtre de la Renaissance, une série de clichés. Alors, on vous a pris en photo, comme Isabelle Carré, comme Bernard Campan, comme Max Boublil, dans ce théâtre vide, évidemment. Racontez-nous un petit peu le principe de cette idée.
C'est une idée qui n'est pas du tout de moi, hein, qui vient d'une jeune photographe qui s'appelle Astrid Jamois, qui est formidable et qui a été appuyée par Morgan Schmilmaker au Théâtre de la Renaissance. Et l'idée, c'était, oui, de photographier des acteurs dans des situations qui pourraient être des situations en confinement. C'est-à-dire que ce que ça fait un acteur quand ça confine.
Et ils se sont ennuyés
dans le théâtre.
Oui.
Donc, y a, vous verrez François Berléand empêché du deuxième balcon.
ça lui va bien.
Dans la salle. Oui, il l'a fait pour.
Et toi, tu fais quoi?
Nous, on joue au street poker avec l'équipe du Canard à l'Orange. Et évidemment, ça donnait l'occasion à François Vigentelli de montrer ses fesses.
Et bah oui, évidemment.
Et son Molière.
Dans les fesses.
Donc on s'est beaucoup amusé, mais surtout ça donnera lieu à une exposition et au Théâtre de la Renaissance. Et ces photos seront vendues.
Pour des associations. Oui.
Voilà, donc c'était à la fois marrant de se retrouver dans joyeux de se retrouver dans un théâtre pour revoir un théâtre.
Vous ne chômez pas, parce que vous travaillez aujourd'hui sur Jacques et son maître, que vous, normalement, vous produirez.
On touche du bois, on ne sait plus quoi toucher en ce moment on espère en septembre qu'on pourra jouer. Et oui,
je
reprendrai Jacques et son maître de Milan Kundera au Théâtre Montparnasse. Oui.
Ouais, je dis simplement aux esprits chagrins qu'un artiste travaille, un artiste. Ne se tourne pas l'épouse, Christelle Chollet, preuve vos parodies que vous réalisez comme des films avec beaucoup d'esthétique.
Ben oui, mais encore une fois, alors moi,
plaisir.
Ça m'a permis de développer ce côté-là chez moi. J'étais pas à fond sur les réseaux avant le Covid. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pour garder ce lien. Et je voulais parler de ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, à propos des chiffres qui nous font peur. Mm-hmm. Et je trouve que la peur, c'est un moyen très, 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 très violent et que ça peut devenir encore plus violent. Quand les gens ont peur, c'est chaud pour la France, c'est chaud pour les dirigeants. Et je parlais de l'occupation je pensais à l'occupation des théâtres. Je te lisais un truc dans Libération hier. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont au conservatoire, qui sont en école de théâtre. Ils ont peur parce qu'ils n'ont aucun avenir. On parle des étudiants partout, mais eux, on n'en parle pas. Ils ne sont pas représentés. Et ils sont là. Il va y avoir un embouteillage après dans l'avenir des tournées du théâtre, des créations qui vont se faire. Et eux, ils ne savent pas où ils sont. Donc forcément, ils ont peur. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de ne pas savoir où ils vont aller. Et du coup, ça fait des gens qui sont en guerre et qui peuvent pas comprendre.
Des jeunes auxquels vous parlez, vous vous adressez, Christophe Alévêque, notamment dans les 12 minutes de parodie de conférence de presse sanitaire de Jean Castex. C'est vous qui représentez le Premier ministre. Écoutez quand vous parlez des jeunes, justement.
Un jeune sans comorbidité, selon les dernières évaluations scientifiques à affiner, aurait donc plus de chances de gagner au loto que d'être emporté par le virus. Et nous nous en réjouissons. Ce sont eux qui vont payer la dette dite Covid.
Voilà, c'est l'humour. C'est un extrait de cette conférence de presse. Alors, ça nous fait rire, mais certains pourraient vous reprocher de sous-estimer cette pandémie. Est-ce que c'est là-dedans qu'a attaqué YouTube pour vous censurer, Christophe Alévêque, justement.
Oui, parce que j'ai été censuré par YouTube.
Pendant deux jours, la vidéo a disparu.
Pendant deux jours, j'ai amené le texte, pour ne pas dire n'importe quoi, qui a vraiment supprimé la vidéo. Parce que pourquoi votre contenu enfreint notre règlement ? YouTube n'autorise pas les contenus qui remettent explicitement en cause l'efficacité des mesures de distanciation sociale et d'auto-isolement préconisées par l'OMS et les autorités. Ça veut dire que ou ils n'avaient pas regardé.
Oui, parce que vous ne parlez pas du tout du masque, du non-respect des barrières, des gestes barrières, ni quoi que ce soit.
48 heures plus tard, même mot, pardon, on a regardé, on s'est trompé. Bon, mais ça montre qu'il y a quand même un couloir de pensée dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont, tout le monde est à cran. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre en cause les mesures. Ce n'était pas du tout mon cas. Je voulais simplement... j'en ai marre, moi, de ces médecins qui viennent en permanence sur tous les plateaux de télé pour nous coller l'angoisse. Et au bout d'un moment, on ne les entend plus parce que ça fait 4 mois qu'ils nous disent... Attention, on est arrivé au seuil de tolérance. Et au bout d'un moment...
C'est ce que disait Christelle, pour vous c'est contre-productif.
Mais c'est pour les gens, c'est contre-productif.
Et j'en ai même entendu un, pour revenir à ce que tu dis, qui a dit, maintenant il faut siffler la fin de la récré. Mais de quelle récré vous parlez, monsieur le docteur ?
Parce que des enfants, tu sais, la fin de la récré,
non, mais
c'est
la
l'école.
L'infantilisation que vous soulignez.
C'est l'infantilisation.
Oui, mais faire attention à ne pas relativiser
Nicolas
Briançon.
Moi, je ne suis pas un spécialiste ni des pandémies.
Mais nous non plus.
Nous non plus, on peut quand même donner notre avis.
Mais il faut reconnaître aussi de temps en temps, hier je suis près chez moi, là, dans plein centre de Paris, à 100 mètres du commissariat du 9e arrondissement, une terrasse blindée de 60 à 100 personnes. Vous savez, ces terrasses en bois qui sont installées maintenant devant les bistrots quand ils avaient le droit d'ouvrir aux terrasses. Oui. Deux gens sans masque, en train de se parler à 10 cm les uns des autres. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a quand même un moment où on ne sait plus comment faire pour expliquer aux gens qu'il y a des mesures. Là, par exemple,
parce
on est dans un studio, pardon, mais on est rentrés dans le studio.
On a tous fait le ménage.
Mais moi, on a désinfecté la table, on s'est lavé les mains.
Je suis pas d'accord avec toi.
On a gardé nos masques.
Mais les gens ne croient peut-être plus à. Ils ne comprennent plus rien, ne croient plus en ce qu'on leur dit, en fait.
Je trouve qu'il y a un peu de démagogie à dire, oh, les pauvres gens, ils comprennent pas.
Non, j'ai pas dit ça.
Je pense qu'on est quand même extraordinairement informés, parfois surinformés, et puis surtout. Pas simplement les médecins, mais tout le monde a un avis sur la Covid. Tout le monde a un avis sur ce qu'il faudrait faire. Tout le monde a un avis sur le traitement. Tout le monde donne son avis.
Oui, mais donc, ce que vous voulez faire, Christophe Alévêque, c'est mettre en garde. C'est-à-dire, il y a les chiffres. Alors, vous jouez beaucoup avec les chiffres.
Oui, mais il a raison. Il y a un côté
dénaturé.
Si tu veux, quand on entend un bon système.
Un exemple. Quand on entend, moi, ça m'a fait bondir. On ne dit pas 500 personnes ont été contaminées, mais un demi-millier. C'est du marketing. On dit, moi, j'ai bondi quand j'ai entendu le ministre de la Santé dire « Une personne rentre toutes les 12 minutes en réanimation en Île-de-France ». ce truc, quand on y réfléchit, ne veut rien dire. On ne sait pas combien il en rentre en temps normal, on ne sait pas pourquoi elle rentre, dans quel état, enfin, etc. Et moi, j'ai comparé avec d'autres chiffres. Voilà, il y a 6 millions d'enfants qui meurent tous les ans de malnutrition dans le monde. 6 millions. Donc, j'ai compté, toutes les 12 minutes, ça fait 144. Donc, pendant qu'un adulte rentre se faire soigner, 144 enfants meurent. Voilà, ça, c'est des chiffres. Mais la malnutrition, visiblement, n'accapare pas notre émotion. Parce que le Covid, moi, c'est le truc qui m'énerve le plus depuis le début, a phagocyté absolument
tout le reste.
Le reste n'existe plus.
Parce qu'on est tout à fait concerné par ça.
Et voilà pourquoi vous essayez quand même, dans la préoccupation du moment, de détourner les choses. Christelle Chollet, on va entendre une autre de vos parodies. On va recevoir, pour un petit coup de fil, une humoriste qui est aussi infirmière. Elle s'appelle Caroline Estremo. Elle cartonne sur Instagram. Et voilà, elle essaye d'associer justement dans cette actualité son humour. Nicolas Briançon, Christophe Alévèque sont avec nous. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Wendy Bouchard.
Le Club des idées, nos invités Christelle Chollet, Nicolas Briançon, Christophe Alévèque. On parle de la pandémie, mais surtout de la manière de s'en éloigner, de s'en échapper un peu aussi, grâce à l'humour, grâce aux parodies, par exemple, de Christelle Chollet. Hommage aux discothèques, aux boîtes de nuit. Hein, écoutez.
Alors on danse tout. Qui dit crise dit sanitaire, qui dit test dit PCR, dit antigénique ta mère, qui dit quatre dit contact, qui dit chômage dit partiel, qui dit travail distanciel, qui dit vague te dit troisième, dit soignant et dit merci, qui dit variant dit anglais, dit brésilien dit breton, qui dit geste dit barrière, qui dit resto dit McDo.
Sur Alors on danse de Stromae, Christelle Chollet.
Mais oui, on ne danse plus, on ne peut plus danser, on est obligé de danser chez soi devant sa glace.
C'est puis, votre manière de soutenir aussi.
Oui, puis je voulais soutenir les discothèques, il y en a pour chacun. Mais je voulais dire aussi que c'est pas parce qu'on est en pandémie et qu'on est en urgence sanitaire qu'on ne peut plus rien dire et plus se moquer de choses en fait. C'est là qu'il faut le faire. Et
puis au contraire.
Et nous les humoristes, on est là pour ça. C'est ce qu'on nous demande aussi et c'est ce qu'on a envie de faire en plus.
C'est fondamental même. Heureusement.
Heureusement.
Je suis pas dans ce créneau-là, moi, du tout, en tant que comédien, vraiment. Mais heureusement qu'il y a des gens pour taper dans de foutre des coups de pied dans la fourmilière. On est là pour ça, d'une certaine façon.
Vous en avez une illustration parfaite avec Caroline Estremo. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir tout le monde.
Vous qui, à la Villette, infirmière et à la scène humoriste, infirmière, sa mère, c'est votre spectacle. Comment tenter ? Je pense que vous vous entendrez très bien avec Christelle Chollet. Comment tenter aussi de dédramatiser la situation ? Par exemple, en ce moment, dans votre établissement, qu'est-ce qui vous fait réagir et qu'est-ce que vous parodiez, Caroline ?
Je parodie notre quotidienne infirmière, finalement, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile, ça, tout le monde le sait. Et en fait, simplement, je le raconte avec humour, tout simplement. Voilà. Et plus la situation qu'on vit tous, mais je pense que c'est pas que soignant, c'est tout le monde. On a vraiment besoin de rire, donc tout est sujet à déconner pour penser à autre chose que ce Covid.
Ouais. Et vous êtes obligé de rappeler les consignes, la précaution. Est-ce que vous vivez aussi avec ces chiffres sur la tête, avec cette réalité très pesante?
On essaye un petit peu. C'est vrai que notamment pendant la première vague, j'ai fait quelques vidéos sur le port du masque qui était un peu n'importe comment.
Oui.
Il y avait de quoi faire aussi. Les gens qui allaient dans les centres commerciaux faire leurs courses avec des gants qui avaient ce même gant qui avait tenu le caddie, qui avait tout touché le portable, qui allait à la joue. Donc il a fallu expliquer pas mal de choses. Mais bon, après, on se moquait un peu gentiment, les soignants, parce que nous, on nous apprend à manipuler les gants, à manipuler. Donc c'est normal que les gens normaux, les moldus, aient eu un peu de difficultés.
Les moldus.
Je suis sûre qu'elle irait très bien, Christelle, dans les spectacles que vous annoncez. Alors c'est du live streaming, parce que vous dirigez le théâtre de la Tour Eiffel à Paris, mais je crois que le 15 avril, il y a un spectacle que vous organisez avec des humoristes.
Avec Caroline aura sa place. Alors si elle, apparemment, vous avez un accent du sud, vous êtes du côté du sud,
Caroline ?
Du côté
de chez toi, je crois.
Toulouse.
Voilà, du côté de chez moi, parfait. Toulousaine.
Ouais, oui, elle est Christelle compatible.
Vous êtes compatible. Si vous avez envie de venir le 15 avril nous rejoindre, en fait, encore une fois, on parle d'être ensemble et comme on l'a prouvé dans certains spectacles en streaming, on peut l'être avec de la distanciation, avec des règles sanitaires très strictes et tout. On va faire un live streaming avec pas mal d'humoristes féminines sur scène et ça va s'appeler Clandestine et ce sera le 15 avril à 20h. Depuis le théâtre de la Tour Eiffel.
Caroline Estremo, l'invitation est lancée. Merci. Merci beaucoup, merci. Caroline, pour ce petit coup de fil. Alors qu'ils occupent le terrain, nos amis Christophe Alévèque a réalisé sur scène, sur la scène du Théâtre du Rond-Point, un spectacle, Le Trou Noir 1, Le Trou Noir 2 et...
Et là, fin avril, malheureusement, ouais. Je vais faire le troisième. Le trônard, j'appelle l'épilogue. Là,
l'épilogue, hein, c'est bien. Mais, marqué la fin, quand même.
Je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'était au mois de mai de l'année dernière. Le Théâtre du Rond-Point a fait 700-800 places. Hein.
Oui.
Et me pointer devant la salle vide, ça a été un moment que je n'oublierai jamais.
Spectacle que vous avez capté pour les réseaux sociaux.
Capté hein. pour France 3 aussi, qui l'a diffusé. Oui. Et je voulais pousser l'absurdité au bout. Et, parce que montrer au bout d'un moment... Souvenons-nous quand même, il y a un an, on ne parlait pas du tout de culture. Pendant des mois, on n'a pas parlé de nous. Hein.
Oui.
On était vraiment... Mais alors, tout le monde reprenait. Et nous, ben non, c'était... Et moi, je me suis dit, je vais y aller, voir, montrer aux gens ce que c'est que de jouer devant une salle vide.
Oui.
Et j'ai eu plein de témoignages. D'habitude, les réseaux sociaux, c'est plutôt « Tiens, prends-toi donc ça dans le... Hein. » et là, en fait,
maintenant.
C'était hyper bienveillant. Parce que les gens, c'est hallucinant, ils écrivaient en disant...
Ils compatissaient. Ouais.
Non, c'était plus que ça, ils étaient sur scène avec moi.
Avec vous, oui.
Et en fait, ils ont un peu découvert le métier, parce qu'en regardant, en fait, ils n'étaient plus dans la salle, ils étaient avec moi.
Ce sont des spectacles qu'on peut retrouver.
Au moins, ça aurait servi à ça. Mais vivement que ça s'arrête.
Ah bah, j'imagine.
Non, on a passé des moments étranges, mais on a capté Nicolas le canard à l'orange comme ça devant une salle vide. C'est quand même un moment...
Diffusé sur France Télévisions, ouais. Et là, 5 millions de téléspectateurs. Ouais. Hein,
on le fait de temps en temps dans notre métier, on appelle ça des filages. Mais là, quand on joue vraiment...
Non, c'est très étrange.
C'est très étrange.
Hyper étrange.
Vous nous avez apporté un texte.
Non, parce qu'on a parlé avant l'émission, Nicolas, on a parlé rugby avec Christophe. Il y a un match quand même ce soir.
Ah, il y a un match ce soir. Bah non, je vous laisserai. Vous inquiétez pas.
C'est important avec une équipe qu'on adore. Et il se trouve que cette année, c'est les 30 ans de la mort d'Antoine Blondin, qui est un écrivain que je vénère. Moi, mon seul travail que je puisse faire, c'est parler des auteurs, ou en tout cas dire leurs mots.
Bah,
et Blondin a écrit sur le rugby des choses merveilleuses. Je dis un peu rapidement, hein, parce qu'on a le temps, on n'a pas le temps. On a le temps.
Vous avez une minute 54.
Très bien. Le rugby est donc aux antipodes du one-man show. Pardon, messieurs, dames. Il propose un art subtil de la réussite dans l'abnégation et dans l'amitié. Où l'homme réputé inachevé par essence se complète enfin à travers les autres. Un semblable culte de l'impersonnalité suppose une juste distribution des tâches et qu'à chacune des vocations physiques correspondent des dispositions morales. La foi, l'espérance et la charité. La foi appartient aux avants dans leur conquête du ballon. On les voit têtus, obtus, battre l'air à la touche avant de s'emboutir dans le paquet de la mêlée où ils tordent de la viande comme on essore du linge en roulant inlassablement des bras de lavandière en béton armé. La charité vient des demi qui transmettent la balle par un rapide calcul où l'esprit de finesse s'introduit dans l'esprit de géométrie. L'espérance, enfin, s'attache à la course des trois quarts avec l'aubaine éventuelle d'un arrière intercalé, en l'honneur de qui leurs adversaires directs sonnent des halali, car le plus pathétique et le plus succulent apparaissent à l'instant où le rugby démasque ce beau visage ouvert, en même temps viril et frivole, qu'il a parfois cette allégresse concertée où les éclairs de l'improvisation zèbrent le stade pour une illumination qui annonce l'aube.
Ah bah alors si avec ça la France ne gagne pas ce soir face à l'Écosse, le bon prend plus rien.
Allez les Bleus,
merci Antoine Blondin.
En tout cas c'est une chouette équipe
et qui
est très... On se disait comme c'est important en ce moment.
Vous avez dit qu'il était
humoriste. Non mais comme c'est important en ce moment d'avoir une équipe comme ça qui arrive à nous faire vibrer tous ensemble encore une fois, je crois qu'on est dans un moment...
Où le bateau tend
très fort. On se le disait tout à l'heure, il nous reste ça. Ouais. Et c'est très bien. Ça sonne creux, évidemment, dans ces stades.
Mais la vibration, elle est là. Hein,
ils ont une telle générosité dans le jeu, dans ce qu'ils proposent, dans le jeu qu'ils proposent.
On est d'accord.
On a envie de les suivre.
Merci beaucoup. Vous serez devant le match aussi,
Christelle
Chollet ?
Bien sûr. Même si il y a plein d'artistes qui proposent énormément de choses aussi. Je ne veux pas aller contre mes copains par rapport au rugby, mais c'est vrai qu'il y a aussi une générosité absolue sur les réseaux. Tous les artistes, il n'y a pas que nous, il y en a plein qui donnent des choses, qui balancent, qui font rire, qui font rêver.
Vous en étiez un peu les
vivement.
Il n'y a pas de porte-parole, mais vous étiez des relais.
Non, voilà. Mais vivement qu'ils reviennent en salle, que le public revienne en salle. Mais en attendant, on est là.
Christelle.
Le télétravail, c'est une vraie souffrance. C'était depuis en visioconférence. T'as vu mon nez sur ce qu'elle
dit.
Et on dirait la fille de Cyrano. Qui dit crise, dit sanitaire. Qui
Garonne.
Mais merci à vous. Oui, bah, vous vous rappelez la genèse. Mais rappelez votre vie. Voilà, vous l'avez connue toute petite, à 18 ans, à côté de Roger Louret. Ouais. Merci infiniment. Christelle
merci
Cholet,
Wendy,
le 15 avril,
vous.
Live streaming Les Clandestines,
ouais.
Au théâtre de la Tour Eiffel. Nicolas Briançon, on a hâte de vous voir au théâtre Montparnasse. Jacques et son maître à la rentrée. Cap sur la rentrée.
Et j'ai pas dit qu'Antoine Blondin était publié aux éditions de la Table Ronde, pardon, je l'ai dit quand même.
C'est très bien. Merci Christophe Alévèque. Les Trous Noirs, 1, 2, 3, épilogue à venir. Et votre conférence de presse, 1 500 000 vues. Et c'est quelque chose, ça fait du bien de
Et vivement que ça reprenne.
Vivement que ça reprenne.
Merci les amis.
Vivement le vrai public.
À tout de suite.